Buena para curar.
C'est pas du vent. Anne-Cécile Barat.
Bonjour, cuisiner avec du gaz de bouse de vache, c'est simple, pas cher, bon pour le climat et la lutte contre la déforestation. Il suffit de construire un biodigesteur, comme cette femme dans la région de Thiès, au Sénégal.
Avec le biodigesteur, on ne coupe plus les arbres pour chercher du bois mort. Sur le plan de l'économie, chaque mois, je paye deux gaz, 10 000 francs de dette au boutiquier. Mais après avoir eu le biogaz, les 10 000 francs, je les mets en tontine. Sur le plan de la santé aussi, le biodigesteur a joué un rôle important. Parce que avec le bois mort, ça fait les maladies oculaires et les maladies pulmonaires aussi.
Après l'Afrique de l'Est, les biodigesteurs se répandent dans les zones rurales d'Afrique de l'Ouest, notamment au Burkina Faso et au Sénégal. Nous irons voir comment ça marche dans la région de Kaolack tout à l'heure, dans la deuxième partie de l'émission.
C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI.
On en trouve dans nos gâteaux, dans nos chocolats, mais aussi dans nos savons et nos dentifrices. On ne la voit pas, mais l'huile de palme est partout. C'est l'huile végétale la plus consommée au monde et sa production est tellement rentable qu'elle s'est développée à une vitesse vertigineuse en Asie du Sud-Est, ravageant au passage des millions d'hectares de forêts primaires. Mais depuis 2010, depuis que l'Indonésie a instauré un moratoire sur les permis de déforestation, les producteurs d'huile de palme cherchent des terres. Or, le climat des forêts tropicales du bassin du Congo est idéal pour cette culture. C'est donc le nouvel Eldorado de l'huile de palme, mais à quel prix ? Cette semaine, d'ailleurs, les investisseurs, les chercheurs et les organismes financiers travaillant dans ce secteur étaient réunis pour échanger sur leur stratégie à Accra, au Ghana. Et c'est à ce moment précis que l'Institut américain Auckland et Greenpeace International ont publié deux rapports, dont un contre un projet de plantation de 73 000 hectares dans le sud-ouest du Cameroun. Bonjour Frédéric Amiel.
Bonjour.
Vous êtes chargé de campagne forêt pour Greenpeace France. Alors pourquoi Greenpeace International a-t-il décidé de se mobiliser précisément contre ce projet de la société américaine Heracles Farms au Cameroun ?
Écoutez, ce projet est intéressant à plus d'un titre, non seulement parce qu'il est représentatif de tous les dangers que vont poser le développement de l'huile de palme en Afrique, dangers pour l'environnement, mais aussi dangers pour les populations. Et puis aussi parce que c'est un des plus avancés de cette nouvelle vague dont vous parliez, d'investissement dans la terre, particulièrement pour l'huile de palme, en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest. Donc tout le monde a déjà les yeux rivés sur ce projet. Il était important que nous, Greenpeace, et puis les ONG partenaires, donnent leur avis sur ce qui ne doit pas arriver en Afrique, étant donné les exemples qu'on a eus auparavant en Indonésie.
On va aller dans un instant, grâce à un reportage de Sarah Sacco, au sein même de la plantation d'Heracles Farms. Mais vous nous dites qu'il y a des risques pour l'environnement et pour les populations. Quels risques en particulier ?
Alors, en ce qui concerne l'environnement, on se trouve dans le sud-ouest du Cameroun, dans une zone forestière extrêmement importante, extrêmement riche, avec plusieurs espèces animales menacées, mais également... les dernières forêts naturelles d'Afrique qu'on trouve dans le bassin du Congo et autour du golfe de Guinée. Et puis au point de vue social, ces forêts sont l'habitat de populations, de plusieurs milliers d'agriculteurs qui pratiquent une agroforesterie basée sur le cacao, mais également sur la culture de légumes et de fruits. Et les terres de ces personnes sont directement menacées par le développement de cette plantation de palmiers à huile.
Alors Bruce Wobel, le PDG de Heracles Farms, a répondu à une interview dans Le Monde dans lequel il explique qu'il ne comprend pas ces attaques en disant que, au contraire, le palmier à huile, notamment au Cameroun, peut être un moyen de développer économiquement le niveau des populations.
Le palmier à huile en tant que plante qui fournit une huile relativement économique est intéressante pour le développement du Cameroun, mais ce qui nous dérange, c'est le développement de plantations industrielles, de monocultures sur des zones de forêt naturelle, sur les terres communautaires et traditionnelles. Monsieur Wobel prétend qu'il veut aider à développer le Cameroun et en même temps, il a négocié des exemptions de taxes sur toutes ses importations, toutes ses exportations. Il va louer la terre pour la modique somme de 50 centimes de dollars par hectare pour une durée de 100 ans. Je ne vois pas en quoi ce projet peut aider au développement du Cameroun à l'heure actuelle.
Au-delà de ce cas précis d'Heracles Farm, vous publiez un autre rapport sur la nouvelle frontière de l'huile de palme cette semaine. C'est donc cette nouvelle frontière, c'est l'Afrique. Alors globalement, quelle est la situation? Est-ce que beaucoup de pays du bassin du Congo sont visés par les planteurs d'huile de palme?
Oui, tout à fait. Donc notamment depuis l'installation d'un moratoire en Indonésie, hein, le fait que les terres sont moins disponibles en Asie du Sud-Est, on a recensé plusieurs dizaines de projets dans le bassin du Congo, mais également en Afrique de l'Ouest. Et puis on s'est intéressé particulièrement dans ce rapport à quatre de ces projets. Deux de ces projets se trouvent au Liberia. Il s'agit d'un projet de Sime Darby et puis d'un projet de Golden Veroleum, qui est une filiale de cette entreprise que Greenpeace connaît très bien, qui est gare et contre laquelle on avait mené des campagnes et qui s'est d'ailleurs engagé récemment à mettre en place de bien meilleures pratiques en Indonésie. Malheureusement, aujourd'hui, on n'a pas de signe qu'au Liberia, cette filiale de gare va mettre en œuvre les bonnes résolutions prises en Indonésie. Et puis un cas au Gabon, particulièrement intéressant, Olam, géant mondial de l'agroalimentaire, qui se lance dans la culture de palmiers à huile avec pour objectif de faire du Gabon le premier producteur africain de palmiers à huile dans les prochaines années. Mais malheureusement, semble-t-il, au prix, encore une fois, d'une information correcte et puis d'un consentement préalable des populations locales.
Vous avez donc décidé, au niveau de Greenpeace International, en tout cas, d'être vraiment très vigilant sur ces dossiers. Est-ce que vous pensez que vous avez des chances d'être entendu avec les intérêts politico-économiques qu'il y a, évidemment, dans le développement d'une telle filière?
Oui, tout à fait. Et puis surtout, ce qu'on espère, c'est que ces compagnies, aujourd'hui, profitent grandement d'un certain nombre de failles dans les règles d'attribution des terres dans les pays du bassin du Congo et d'Afrique de l'Ouest. Et on est convaincu qu'au sein des gouvernements, il y a des gens qui souhaitent maîtriser le développement de leur pays et ne pas le faire au détriment des populations et de l'environnement, mais le faire de manière soutenable, de manière durable. Et on pense qu'en proposant une révision des modes d'allocation des terres, en proposant des nouveaux plans d'aménagement des sols, nous, mais également les autres ONG et organisations africaines et internationales, on saura trouver les alliés qui aideront à mener cette réforme nécessaire des modalités d'allocation des terres en Afrique.
Merci Frédéric Amiel. C'est en 2009 que Heracles Farms a signé avec le gouvernement camerounais un contrat de location de 73 000 hectares dans le sud-ouest du pays pour une durée de 99 ans. Le problème, c'est que les terres affectées pour la plantation des palmiers à huile jouxtent le Korop National Park, l'un des hauts lieux de la biodiversité du continent. C'est un reportage de Sarah Sacco.
La forêt de Korop date de plus de 60 millions d'années et ça reste intact.
David O'Conn est le responsable du site auprès du WWF, le Fonds mondial pour la nature. L'ONG internationale assure l'appui technique du parc. Au regard de son grand âge, le Korop détient le taux d'endémisme le plus élevé au monde. Sur sa surface, plus grande que celle du département français de la Martinique, on recense 1700 espèces d'arbres, dont 30% unicocytes. Près de 1000 de papillons, 400 d'oiseaux et 161 grands mammifères différents, dont le léopard. Pour les défenseurs de l'environnement, la catastrophe écologique est imminente. Avec la destruction de la forêt à proximité du Korup National Park et des réserves voisines, les populations se reporteront, explique-t-il, sur les zones protégées pour chasser et couper du bois. Nasako Bizinge dirige une ONG locale, le SUFE, la lutte pour la préservation de l'environnement futur.
The area is between two reserves of national and international importance.
La zone que s'est attribuée la société SGSOC est entre deux réserves d'importance nationale et internationale, le parc national de Korup à gauche et la réserve de Rumpiil à droite. La concession s'étale aussi sur plus de 30 villages, des champs familiaux, des rivières, des sources d'eau potable. Ces terres servent aussi de corridor entre le parc de Korup et la forêt de Rumpiil. Des espèces en danger, comme le drill et d'autres primates, l'utilisent pour passer d'une forêt à l'autre en recherche de nourriture. Voilà pourquoi la zone est inappropriée à une plantation géante de palmiers à huile. On estime que 25 à 30 000 personnes seront directement affectées par ce projet, mais beaucoup plus le seront indirectement dans les régions du sud-ouest, du littoral et l'état nigérian de la Cross River. Le projet menace l'équilibre de ces régions en raison des nombreuses sources d'eau qu'on y trouve.
À quelques kilomètres du parc national de Korup, SGSOC, la filiale locale de la société américaine, a défriché quelques dizaines d'hectares pour implanter une pépinière. Une centaine d'ouvriers travaillent sur le site. Certains puisent de l'eau dans une rivière à l'aide d'un simple seau que d'autres utilisent ensuite pour arroser les plants. Ici, c'est un tout autre langage que l'on tient au sujet de SG Soc et de son projet d'exploitation de palmiers à huile.
Conservation is very important and
conserver la forêt, c'est très important. Mais la compagnie est aussi très importante pour moi. Beaucoup de villageois gagnent de l'argent maintenant et leur vie s'améliore. Une ONG allemande, la GIZ, avait proposé un plan de développement durable pour les villageois. Mais 2 ans plus tard, on ne voit toujours rien. Ils avaient promis du travail pour que les gens n'abîment pas la forêt, mais nos conditions de vie ne se sont pas améliorées. Alors pour moi, la compagnie est très importante. Elle a promis d'employer les gens en permanence et d'augmenter les salaires.
En août dernier, le SEFE a traîné SG Soc en justice pour ses pratiques jugées peu orthodoxes par l'ONG. Le tribunal de grande instance de Mundemba lui a donné raison. Il a sommé la firme de suspendre ses activités et l'a reconnu responsable de faits aussi accablants que la corruption de leaders communautaires ou encore d'avoir falsifié des documents pour parvenir à s'implanter sur ce site. Des allégations que rejette en bloc l'entreprise américaine qui tient à préciser que la procédure judiciaire suit toujours son cours. Heracles Farms se dit par ailleurs fière d'un projet qu'elle présente comme durable et respectueux de l'environnement. Hamilton James, directeur du projet.
So just like you have communities, you know, existing right now.
Tout comme les communautés, le parc national de Korup coexiste, nous pensons que ces communautés, le développement, le peuvent aussi. Quand nous regardons ce site, nous ne pensons pas « Ah, voilà encore un problème, il y a des villages en travers de notre chemin », mais plutôt « Comment pouvons-nous composer avec ces villages ?» Pour les réserves naturelles, nous traçons des zones tampons près des parcs. Cela fait beaucoup de terres à préserver. C'est la même chose pour les zones humides. La loi camerounaise prévoit des zones tampons. Mais même sans l'existence de la loi camerounaise, cela fait partie des contraintes internationales à respecter, à savoir des zones tampons de plus de 20 mètres autour des rivières. Et c'est exactement ce que nous allons faire. Notre bail fait environ 75 000 hectares, et nous n'en exploiterons que 60 000. 20% des terres ne seront pas exploitées parce que nous avons conscience qu'il faut des terres pour les populations riveraines, la faune et les points d'eau.
Des arguments qui ne rassurent pas les associations qui continuent de s'interroger. Pourquoi les autorités camerounaises ont-elles choisi cet emplacement? Pourquoi ont-elles concédé un bail de 99 ans au prix dérisoire de 1 dollar par hectare et par an? Nasako Bizingé, responsable du SEFE.
Ils parlent de projets de développement, mais ce n'est pas un échange équitable pour autant de terrains. On parle là de ressources hydrauliques, de terres cultivables. Nous sommes très surpris que le ministère des Forêts, au lieu de suspendre les activités de SG Soc, leur donne le feu vert alors que leur étude d'impact environnemental n'est pas conforme à la réalité. Ils ont falsifié cette étude. Nous sommes aussi très surpris que le ministère des Forêts leur ait donné l'agrément en moins des 30 jours, ce qui est le minimum réglementaire. Normalement, l'étude environnementale aurait dû faire l'objet d'une consultation publique après 30 jours pour permettre aux communautés concernées de consulter le document. Cela n'a pas été fait. SG Soc n'a même pas distribué le document aux villageois. Et lors de la consultation publique prévue avec les villageois, la plupart d'entre eux n'étaient pas présents. La réunion a été organisée pendant la saison des pluies, alors que les gens étaient dans l'impossibilité de se déplacer. SG Soc s'est contenté d'engager des jeunes qu'ils ont rémunérés en guise de participants.
Le ministère des Forêts et de la Faune, directement mis en cause par les ONG, n'a pas donné suite à notre demande d'interview, lui préférant une note de sa cellule de communication. Contrairement à ce que prétend l'entreprise américaine SG Soc, le ministère écrit qu'à sa connaissance, aucune étude d'impact n'a été réalisée préalablement avant le démarrage du projet. Le document mentionne également que le ministère partage, je cite, l'inquiétude des populations et des ONG sur les risques de ce projet et bien d'autres. Fin de citation. L'aveu d'impuissance du ministère des Forêts et de la Faune, dont ne dépend pas in fine la signature de ces projets agricoles, n'est pas de nature à rassurer les ONG et les riverains du projet. Selon les plans de SG Soc, la filiale locale d'Heracles Farms, 60 000 hectares devraient être exploités d'ici 4 ans. Une véritable course contre la montre est enclenchée pour les ONG qui espèrent encore faire entendre leur voix.
Un reportage signé Sarah Sacco. L'avantage du palmier à huile, c'est sa productivité qui lui permet d'utiliser, à production égale, 6 à 9 fois moins de terre que les autres oléagineux. Il peut donc permettre un rapide développement économique. Bonjour Patrice Levangue.
Bonjour.
Vous êtes agroéconomiste à l'Institut français de recherche pour le développement, détaché au CIFOR. La problématique, évidemment, c'est comment concilier développement, justement, et préservation de l'environnement.
Ben oui, absolument. Donc, j'ai passé 30 ans à travailler en Indonésie et j'ai vu ces 10-15 dernières années pas mal de provinces indonésiennes, Sumatra, Bornéo, sortir de la misère, de la difficulté, des difficultés grâce au développement du palmier à huile. Alors, le développement du palmier à huile n'est pas toujours facteur de progrès pour les populations locales, mais surtout les populations migrantes qui ont été associées au développement d'agro-industrie localement, en général, s'en sont bien tirées. Et des régions entières se sont développées. C'est quand même sympathique de revenir sur le terrain quelques années plus tard, de voir les cabanes remplacées par des maisons en dur. D'une manière générale, le palmier à huile est un bon moteur de développement.
Mais si l'on veut préserver la forêt et l'environnement, il y a évidemment quelques préalables.
Il faut faire un choix. Hein. On ne peut pas à la fois sur le même terrain conserver la forêt, sauvegarder les orang-outans et faire du développement économique. Donc notre objectif, notre combat, bon aussi fort et à l'IRD, c'est d'arriver à associer les deux, arriver à associer conservation et développement. Donc éviter de détruire les dernières forêts tropicales, surtout les zones à haute valeur de conservation, mais se focaliser davantage sur des zones soit déjà converties, soit dégradées. Il y a des milliers d'hectares, des millions d'hectares de zones dégradées en Indonésie qui pourraient, et au Cameroun, qui pourraient être utilisées pour le développement du palmier. Et inutile d'aller convertir davantage de forêts primaires.
Alors la question, c'est pourquoi est-ce que, par exemple, Heracles Farms va chercher à produire du palmier à huile juste à côté du Korup National Park, qui est une haute réserve de biodiversité en Afrique ?
Une agro-industrie qui débarque au Cameroun, elle va demander un terrain, une zone assez importante. Donc là, en l'occurrence, ils ont demandé 73 000 hectares. Donc ils n'ont pas, à mon avis, ils n'ont pas spécifiquement choisi la proximité de Korup. Ils ont choisi la zone la plus favorable au développement du palmier au Cameroun, qui est la zone littorale sud-ouest du Cameroun. C'est une zone qui est favorable au développement écologique de la plante. Malheureusement, c'est aussi une zone très riche en endémisme et à peu près 30 à 40% de la surface qui est en zone protégée.
Alors, pour éviter cela, vous dites qu'il faudrait instaurer, et pas seulement au Cameroun, hein, d'ailleurs dans de nombreux pays d'Afrique, et notamment dans les pays du bassin du Congo, instaurer des plans nationaux de développement durable du palmier à huile.
Absolument, avec le WWF, on a travaillé sur ce sujet. Le problème essentiel, c'est que tous ces investisseurs qui débarquent dans le pays, on ne sait pas très bien où les installer, quoi leur proposer. Le gouvernement camerounais n'est pas prêt, n'a pas de plan de développement. Il n'y a pas de planification nationale de prête. Il n'y a pas de collaboration intersectorielle entre les différents ministères. Donc, l'exemple classique, c'est sur la même zone, on va se retrouver avec des exploitants forestiers, le même terrain étant attribué à l'exploration minière ou encore zone de conservation ou à une agro-industrie. On peut avoir 4 usages conflictuels sur la même parcelle parce que les cartes ont été mal faites, parce que les permis se superposent.
Est-ce que cette ruée des multinationales de l'huile de palme sur l'Afrique depuis quelques années vous inquiète à terme ?
Alors, ce qui est inquiétant, c'est pas l'arrivée d'agro-industrie, c'est plutôt une chance pour le bassin du Congo de voir arriver des investisseurs qui vont développer la région. Ce qui est inquiétant, c'est la taille des investissements. Là, rien que pour le Cameroun, en 2 ans, on a des demandes pour le palmier à huile de l'ordre de 1 million d'hectares. Trouver 1 million d'hectares de terrain au Cameroun à l'heure actuelle, il y a un seul type de terrain, c'est le domaine forestier permanent. Donc, de ce côté-là, oui, ça nous inquiète un peu.
Merci Patrice Levang. Restez sur RFI, vous ne serez pas mieux ailleurs. On se retrouve juste après les infos. Nous irons au Sénégal voir comment fonctionnent les biodigesteurs. Vous verrez, c'est épatant. À tout de suite.